Une année en deuxième secondaire, c'était hier, j'ai eu la chance immense, enfin nous avons eu la chance, mes petits camarades de classe et moi, en début d'année, de nous entendre dire que nous aurions deux profs de gym. Pas un, deux. Un prof de sport, avec qui nous ferions du sport, et un prof de gym avec lequel nous allions vraiment faire de la gym. Alors les barres parallèles, le sol, la barre fixe, la totale. Hein. De rien que d'y penser, j'en crois mal partout. Et une de ces marottes à ce gars en fin d'entraînement, c'était toujours de nous faire mettre en position de grand écart. Alors on ne descendait pas à fond à l'époque, forcément, on n'aurait pas su, c'était parce qu'il pensait qu'avec le temps, ça nous assouplirait. Puis il passait derrière chacun d'entre nous et il poussait. Je ne vous dis pas au niveau des adducteurs, en plus, j'étais joueur de foot, et quand je claquais, c'était toujours à cet endroit-là. Donc ça ne m'a pas aidé non plus pour ma carrière future. Il n'empêche qu'il est une chose qu'il ne nous a jamais dit concernant le grand écart. Il ne nous a jamais dit que nous devrions devenir plus souples en essayant plus fort de faire le grand écart. En fait, ce gars, le seul truc qu'il m'ait appris, c'est ce qu'il ne m'a pas dit. Et en fait, je me suis rendu compte que plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à jouer au tennis, que ce principe d'essayer plus fort en permanence pour obtenir d'autres résultats ne fonctionnait pas. C'est quand, par exemple, j'essayais de servir plus fort ma première balle de service. Chaque fois que j'essayais de faire ça, elle sortait. Je ne la rentrais jamais dans le carré ou alors je prenais le filet. Tout simplement parce qu'il est une donnée importante qu'il faut que nous intégrions et qui est valable pour tous les domaines de la vie, je pense. Et je reviens au tennis. Quand vous essayez simplement de frapper plus fort la balle, en fait, vous tendez tous vos muscles. Si j'ai des muscles, je vous assure. Donc, ils perdent de leur réponse et de leur élasticité. Et en d'autres termes, vous vous raidissez et ça ne fonctionne pas. Ça produit en fait exactement l'effet inverse de ce que vous escomptez. Donc, pour servir plus fort, il faut apprendre à se relâcher. Le principe donc, qui est valable dans tous les domaines de la vie, semble-t-il, est donc celui-ci. Le plus fort vous essayez de contrôler les choses, par exemple votre changement personnel, votre relation à Dieu, au plus les choses vous échappent et au plus vous perdez le contrôle. Ça rejoint ce que nous disions dimanche passé. Nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons donc pas fonctionner, revendiquer ce positionnement. Au plus vous essayez d'impressionner quelqu'un à une première rencontre amoureuse, par exemple, au plus vous êtes sûr que vous passerez pour ce que vous n'êtes pas. Mais tout le monde fait ça. Pas moi, mais en général, tout le monde fait ça. On surjoue. Donc, pour changer, pour que ça marche vraiment, j'ai besoin de plus que moi dans ma vie pour que ce changement, cette transformation s'opère. Imaginez d'ailleurs un instant quelqu'un qui vous conseillerait d'essayer plus fort de vous relaxer, d'essayer plus fort d'aller au lit. Hein. Moi, j'ai essayé avec ma fille, ça ne marche pas. D'essayer plus fort d'être miséricordieux ou de ne pas vous inquiéter. Pire encore, essayer plus fort d'être joyeux. Autrement dit, il y a des limites à ce que vous pouvez faire en vous reposant simplement sur votre propre volonté. D'ailleurs, et c'est symptomatique, quand on lit l'Évangile, ceux qui rencontraient le plus de problèmes avec Jésus sont justement ceux qui, à l'époque, essayaient plus fort d'être comme Dieu le demandait, à savoir les pharisiens. Ils essayaient tellement fort d'être bons qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter de penser qu'ils essayaient si durement de l'être. Donc, ils devenaient méritants, plus méritants que les autres. Et la conséquence, c'est qu'on tombe dans le jugement de l'autre. Et en fait, ce fait, cette dimension, cet essai basé uniquement sur la volonté a une conséquence terrible, je trouve, en tout cas dans nos vies, c'est qu'il devient très vite un obstacle à l'amour dont nous sommes supposés aimer les autres. Parce que quand j'essaye plus fort quelque chose, de faire quelque chose, il y a un truc qui se passe tout de suite. C'est que très vite, je n'ai plus me concentrer que sur mes propres efforts héroïques et sans même m'apercevoir, c'est vrai que je grandis, je viens de le dire, mais uniquement dans le jugement. Alors plutôt que de faire des vœux pieux au sujet de ce que devrait être ma vie spirituelle par relation avec Dieu, je devrais peut-être chercher à abandonner ma volonté un jour après l'autre à quelqu'un d'autre que moi. Pratiquement, ça peut signifier d'être attentif aux petites apparitions de Dieu dans nos vies, hein, des grâces journalières. Ça peut être aussi de tenter de m'engager dans de petits actes de service, pas en faire trop, mais assumer les petits actes de service, Prier brièvement pour éviter la grande perturbation de mes pensées. Emprunter des chemins pour être avec Dieu que j'ai déjà expérimenté avec joie par le passé. Essayer d'arrêter de se plaindre pendant une demi-heure. Si c'est trop dur, essayez 5 minutes pour commencer. Essayez de dire quelque chose d'encourageant à 3 personnes de suite. 3, hein, pas une. Mettre 5 € dans votre poche et de les donner à quelqu'un dans le besoin. Vous avez de toute façon rencontré quelqu'un dans le besoin sur la journée. Vous octroyez un break de 5 minutes dans votre journée pour lire quelque chose d'intelligent, écrit par quelqu'un d'intelligent. Ça changera, hein, de ce qu'on voit à la télé, par exemple. Alors, soyons clairs, si le fait d'essayer plus fort, de mettre toute votre volonté dans votre changement, vous fait grandir spirituellement, continuez. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'il existe une alternative. Et c'est tout simplement d'essayer plus doucement, d'essayer différemment, d'essayer mieux. Car rappelez-vous ce que Jésus a dit, il y a un fleuve d'eau vive qui est supposé couler de nous, ça c'est vrai, mais ce fleuve, ce n'est pas vous, hein, c'est le Saint-Esprit. Le père franciscain Richard Rohr l'exprime comme ceci, je trouve que c'est une très belle image. La foi n'a pas besoin de pousser la rivière, car la foi est capable de croire qu'il y a une rivière. La rivière coule, nous sommes dedans. Autrement dit, essayer plus doucement, en opposition d'essayer plus fort, ça signifie simplement de se concentrer davantage sur la bonté et l'amour de Dieu que sur nos efforts. C'est ce que préconisait déjà David. Souviens-toi de moi, il s'intéresse à Dieu bien sûr, souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. Alors ça est dans le contexte du psaume, il dit, ne te souviens pas de mes péchés ou de mes manquements. Souviens-toi de ton amour, mais c'est aussi, n'aie pas une vision de moi relative à mes capacités, à ce que je fais pour toi, à mes progrès dans la vie spirituelle, à mes progrès dans ma relation avec toi, parce que ça ne sera de toute façon jamais assez dans l'absolu. Que ma relation avec toi, Seigneur, repose uniquement sur ta bonté envers moi et sur ton amour envers moi. Tant qu'on ne vit pas ça, on est malheureux en fait, hein. Donc, quand je comprends que tout repose en l'amour de Dieu, je deviens tout simplement moins tendu. Je commence à me décontracter, pour reprendre l'image du tennis de tout à l'heure. Lorsque j'essaie plus doucement, je suis moins sur la défensive. Je suis donc plus ouvert aux remarques que les autres peuvent me faire sur mon comportement. J'apprends tout simplement mieux. Je ne perds pas patience parce que les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Parce que j'apprends progressivement à accepter que je ne suis pas Dieu. Mais ça implique aussi, et ça c'est fondamental, je pense pour chacun d'entre nous, que je vais dans ce cas-là me féliciter beaucoup moins lorsque je fais quelque chose de bien, et ça peut être une chose de bien, mais aussi que je me flagellerai beaucoup moins quand je fais quelque chose qui est un peu skivenskel, comme on dit à Bruxelles. Et c'est plus doucement, ça veut simplement dire demander l'aide de Dieu pour faire ce que nous sommes supposés faire. Arrêtez d'essayer de le faire tout seul. Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je fais un truc vraiment bien, j'en suis conscient très vite, puisque je fais très attention à moi. Donc, je pose un acte super, et puis comme j'y pense à partir de moi, uniquement à partir de moi, je ne pouvais pas m'empêcher directement après de me dire, ouais, je suis quand même un mec formidable, hein, non ? Donc dans ce type de processus, même lorsque je fais un pas dans la bonne direction, ma pensée suivante est systématiquement une louange adressée à ma propre personne. Je réfléchis sur mon incroyable capacité spirituelle, ce qui forcément va me faire faire 2 pas en arrière. Donc un acte super sympa que j'ai posé va s'avérer dans l'heure qui suit être quelque chose qui va m'éloigner de la pensée de Dieu. Donc la véritable croissance relationnelle avec Dieu se situe toujours à l'opposé de notre propre justice et de ce que nous pensons véritablement de nous. C'est le centre d'une petite histoire qui se trouve dans l'Évangile. C'est une parabole un peu particulière, moi, que j'ai toujours trouvé très étrange, qui est interprétée de différentes manières, et moi je respecte exégétiquement tout ce qu'on a pu dire sur cette parabole. C'est une parabole qui se trouve dans le chapitre 17 de Luc, et qui, à première lecture, est extraordinairement insécurisante, je trouve. À titre personnel. C'est bien entendu Jésus qui parle. Si l'un de vous a un esclave qui laboure au garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui est ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ça n'a pas comme parabole, non? Ce qui est intéressant, c'est que cette parabole est enseignée par Jésus, bien sûr. Jésus qui est quand même passé dans l'histoire, entre autres, pour monsieur, je sers tout le monde, tout le temps, en permanence. Donc pourquoi le maître ne permettrait-il pas à ses serviteurs de manger? En fait, cette histoire, je pense, ne parle pas vraiment des relations dans le travail ou des rapports maître-esclave. Je crois que Jésus s'attaque ici à notre tendance naturelle à surévaluer le fait que nous y sommes arrivés par notre propre force, par nos propres compétences. Et il nous montre le chemin vers un étage différent ou supérieur de la vie spirituelle. Nous devons apprendre à discerner avec l'aide de Dieu qui nous sommes vraiment et le pourquoi nous faisons les choses. Qu'est-ce qui nous anime quand nous faisons les choses? En fait, nous pourrions sans doute envisager notre croissance spirituelle et la perception que nous en avons dans nos relations à Dieu selon quatre niveaux différents. Alors, je leur ai donné un nom, on pourrait en donner d'autres. Ça va peut-être vous faire rire. Le premier niveau, c'est incompétent et inconscient de l'être. Vous êtes incompétent. Je suis, premier niveau, je suis incompétent. On parle de vie spirituelle ici, bien entendu. Ça peut quand même peut-être s'adapter à d'autres domaines de la vie, mais on va se concentrer sur le spirituel. On est quand même dans une église. Donc, je suis incompétent et je suis inconscient de l'être. De là, mon petit bonhomme. À ce niveau, non seulement je suis incapable de faire quoi que ce soit, puisque je suis incompétent, mais en plus, je ne suis même pas conscient moi-même de combien je suis incompétent. Ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à cette émission qui a été arrêtée, je pense, depuis 2 ans, La Nouvelle Star, vous voyez, tous ces chanteurs et chanteuses amateurs qui viennent faire passer un casting pour devenir la future grande star de la chanson française. Je vous fais un résumé de cette émission, en fait. Je ne sais pas chanter. Et je ne sais pas à quel point je suis un calvaire à écouter. Mais je chante quand même, persuadé que j'ai un talent fou. Je suis incompétent et inconscient de l'être. Alors, c'est vrai que ça fait rire quand on voit les présélections. Je me rappelle, ça, vous pouvez encore peut-être aller le voir sur YouTube, taper La Nouvelle Star, vous allez voir, ça a pleuré de rire tellement c'est mauvais. Mais ça n'est pas drôle. Quand on y réfléchit, c'est dramatique. Et puis moi, je me demande toujours, ces gens n'ont pas de famille autour pour dire que t'es une catastrophe ambulante. Mais non, ils sont là, c'est merveilleux, ma chérie. Mais non, c'est pas merveilleux, c'est très mauvais. Voilà. Ce qui est dramatique, si c'est dramatique, c'est tout simplement parce que le premier prix que l'on paye à l'incompétence est toujours l'incapacité de percevoir notre incompétence. C'est ça qui est dramatique. Prenez un lieu quelconque et mettez-y une personne ivre, entourée de gens qui ne le sont pas. La personne qui sera la moins consciente qu'elle a trop bu est toujours la personne ivre. Les autres le savent très bien. C'est terrible, quand même. Alors, si je devais prendre un exemple de cette vérité dans la Bible pour l'appliquer au domaine spirituel, je choisirais le fils cadet de la parabole du fils prodigue. Vous voyez, le petit dernier de la famille, dans son arrogance, qui dit à son père, « File-moi mes thunes. Et moi, je vais aller vivre ma vie parce que moi, je n'en peux plus ici à la maison. Tu me pompes l'air, je veux vivre ma vie. » Vous connaissez la parabole. Il va vivre sa vie, ça ne se passe pas spécialement très bien puisqu'il va dilapider tout l'argent de son père et, dans un premier temps en tout cas, être totalement inconscient de ce qu'il est en train de faire. Il est en train de foutre sa vie en l'air sans même s'en rendre compte. Parce qu'il est totalement inconscient de son état spirituel, de son rapport à Dieu et au monde. Donc, il y a un danger à ce stade-ci. On verra qu'il y a un danger à tous les stades. Mais à ce stade-ci, il y a un terrible danger. C'est de continuer à vivre dans une ignorance perpétuelle de ce que nous sommes. Donc, et c'est ce que nous enseigne la parabole du fils prodigue, et la vie, je pense, en général, ce qui va nous permettre de sortir de cette inconscience, ça ne va pas vous faire plaisir, mais c'est comme ça, c'est la souffrance. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas conscient de ce qui se passe, c'est la souffrance qui va nous faire sortir de notre inconscience. C'est vrai dans le domaine spirituel comme dans le domaine physiologique et psychologique. C'est parce que nous avons mal ou que nous allons mal que nous prenons conscience qu'il y a un problème. Tant qu'on a l'illusion d'aller bien, il ne se passe rien. Jusqu'au moment où émerge quelque chose dans notre existence qui va nous faire prendre conscience que nous n'allons pas bien ou que nous avons mal quelque part. C'est pour cette raison qu'une des pires maladies ayant jamais existé et continuant à exister, même si aujourd'hui on a des traitements pour, c'est la lèpre. La lèpre, ce sont les terminaisons nerveuses qui sont atteintes. Autrement dit, les gens se blessent, les blessures s'infectent, mais comme leurs terminaisons nerveuses sont attaquées, elles, ces personnes, ne sentent plus rien. Elles peuvent perdre un membre sans même s'en rendre compte parce que ça ne leur fait pas mal, mais cette absence de souffrance les mène à la mort. N'ayez pas mal aux dents, vous n'allez pas aller chez le dentiste, hein. Donc chaque fois qu'on dit « Oh, moi, j'aime pas avoir mal », oui, mais ça, personne n'aime avoir mal. Mais le fait d'avoir mal envoie un message sur le tableau de bord de notre vie en disant « Oh, coco, là, hé, bobo, là, il faut que tu bouges parce qu'il y a un truc qui ne va pas. » Pas de souffrance, pas de prise de conscience. C'est donc la douleur qui nous rend conscients. Alors, on va revenir à notre fils cadet, un peu plus loin dans la parabole. Là, je vais prendre le texte. Alors qu'il avait tout dépensé, il n'y a plus une thune, hein, une importante famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Jusqu'alors, il n'a pas travaillé, pas besoin de travailler quand on dilapide son héritage. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs garder les porcs. Ce passage-là de la parabole, pour les auditeurs juifs de l'époque de Jésus, ça a dû faire un séisme. Un juif qui s'occupe des porcs. Quoi. Dans le judaïsme de l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, le porc est un animal impur. Et là, il va travailler, il va gagner sa vie en gardant des porcs. Ça vous situe, hein? Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir, donc, dans d'autres traductions, à entrer en lui-même, et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Prise de conscience. Pourquoi ? Parce qu'il va très mal. C'est lorsqu'il a dépensé tout l'argent de son père, et donc une famine frappe le pays, l'obligeant même à envier la nourriture des cochons, que le fils, le dit le texte, se met à réfléchir sur lui-même. Il se met à réfléchir et c'est douloureux. C'est jamais facile de prendre conscience qu'on est en train de faire l'andouille. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi, ça me... Voilà. La douleur est ce que nous expérimentons lorsque la réalité se ferait un passage en nous. On a pas mal tant qu'on ne prend pas conscience de la réalité. Une fois qu'on en prend conscience, on commence à souffrir. D'accord ? Ça, c'est ce qui nous amène au niveau suivant, où il y a un petit mieux déjà, puisqu'il y a une prise de conscience. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Homer Simpson, hein, qui est le plus irresponsable de tous les irresponsables, forcément, vous le savez sans doute, même si vous n'avez pas regardé la série, et qui est au tableau de commande d'une centrale nucléaire. C'est intéressant. On peut se poser la question sur le discernement du PDG du truc, quand même. Voilà. Donc, quand on prend conscience qu'on est incompétent, qu'on est en train de vivre quelque chose complètement absurde ou mauvais pour nous, on devient donc incompétent. On est toujours incompétent, mais on est conscient de l'être. On est un peu plus loin. On a eu mal. Il y a un truc qui s'est passé. On a pris conscience. Je suis donc devenu conscient de mon incompétence. C'est par exemple le cas de cet homme qui a toujours pensé qu'être parent était facile, que contrôler des enfants était juste une question de bon sens et de fixation de limites, jusqu'au jour où l'enfant paraît et qu'il devient effectivement parent. Il est confronté vraiment à un enfant et il se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est le cas de celui qui a toujours pensé que skier est une chose facile jusqu'au jour où il chausse des skis pour la première fois. Il se passe quoi, vous croyez ? Ben, il se casse la figure, quoi, bien entendu. C'est le cas du fils prodigue, lorsqu'il réfléchit sur lui-même. À ce moment-là, il prend conscience de l'échec misérable de son approche de vie et il décide de rentrer à la maison. Même s'il ne pense pas qu'il puisse rentrer en tant que fils. On va voir, bien entendu, qu'il est accueilli comme fils. Le mieux d'après lui qu'il puisse espérer, c'est de rentrer en tant que serviteur. Mais il est devenu conscient que sa démarche a été abominable et pour lui et pour sa famille. À ce stade-là, quand on prend conscience qu'on n'est vraiment pas ce que l'on pensait être, il y a un grand danger. C'est le désespoir. Penser que ça ne changera jamais. C'est pour ça qu'il dit, moi je vais rentrer chez mon père, mais je ne vais même pas oser l'appeler mon père. Je lui demandais qu'il m'engage comme un ouvrier. Pourquoi ? Parce qu'il est inconscient de sa médiocrité, il n'est toujours pas conscient de l'amour que son père lui porte. Ça, c'est pour un stade suivant. Voilà. Dans la vie spirituelle quotidienne, sans passer par des trucs dramatiques, je me compare à un vieux sage barbu que je connais bien, qui passe en moyenne 8 heures par jour en prière tous les jours, et je me décourage tellement de mon manque de prière que j'abandonne la prière, parce que je suis nul. Alors c'est vrai que je suis nul, mais l'abandon n'est pas une option, le désespoir non plus. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui dirige. Ou alors je vois une famille où tout le monde semble s'aimer, où ça se passe bien, ils ont l'air heureux, ils ont des chouettes communications familiales, une famille à qui tout semble réussir, et puis je regarde la mienne, et je me dis que j'ai un papa, une maman en dessous de tout, que je comprends rien à mes gosses, que je ne vois plus depuis des années, enfin soit. Et je désespère. Je désespère tellement que j'en déduis que mon être intérieur est forcément trop endommagé, puisque je suis dans cet état-là, pour aller mieux un jour. Donc à ce stade-là, ce dont nous allons avoir besoin, c'est d'espérance, et ça avec Dieu qui peut le donner. Et cette espérance, elle prend sa source dans l'amour de Dieu et dans la présence du Saint-Esprit. On n'aurait pas le Saint-Esprit, on pourrait se poser des questions, mais on l'a le Saint-Esprit. Ok ? Ça va, c'est... Oui ? Il y a ma femme qui me regarde et me dit, c'est encore des trucs qui passent au-dessus de ma tête. Non ? Attends. Autant pour moi, ma chérie. Je suis incompétent et inconscient de l'être sur ce coup-là. Stade suivant, je suis compétent, c'est un processus, hein. C'est une bonne nouvelle, hein. Je deviens compétent et je suis conscient de l'être. C'est quelqu'un qui vient juste de recevoir son permis de conduire mais qui surveille chaque voiture dans la file et planifie chaque virage avant de le prendre. C'est le pianiste qui a besoin de penser à chaque touche que touchent ses doigts pour être sûr de ne pas faire de fausses notes. C'est l'alcoolique lors de son premier jour de sevrage pour qui chaque moment passé sans boire est digne d'applaudissements. Ces personnes pensent en permanence à elles-mêmes et à leurs efforts pour grandir. Et très souvent, elles vont se comparer aux autres qui ne sont pas à ce stade de prise de conscience. Si je reviens à ma parabole du fils prodigue, c'est exactement l'état d'esprit du fils aîné de la parabole, qui lui n'a pas demandé l'héritage de son père, qui lui n'a pas abandonné son père, qui lui est resté avec son père et qui travaille pour son père, mais qui est de mauvaise humeur tout le temps, qui fait les choses comme un esclave, par devoir, et pas en étant conscient que son père l'aime et que tout ce qu'il est en train de faire dans ce domaine, qui appartient à son père, lui appartient à lui aussi, puisqu'il doit hériter tout ça. C'est le chrétien qui fait tout par devoir, servilement. Rappelez-vous de la scène qu'il fait lorsqu'il apprend en revenant des champs de son travail que son père a fait une fête pour son frère cadet qui est revenu. Et il est en colère. Et chemin faisant, il va même manquer de respect à son père en l'obligeant de sortir de la pièce où il se trouve avec son frère cadet, ce qui à l'époque est inconcevable. Qu'on oblige un père à se déplacer pour aller vers son fils, pour un juif de l'époque, c'est un scandale, ça mérite une paire de claques au minimum. Parce que le père, c'est le pater familial, hein, c'est pas les papas d'aujourd'hui, hein, c'est les pères, quoi. Voilà. Ah, quel bon temps, c'est vraiment le bon temps, ça. C'est... Le danger à ce niveau aussi, mais vous l'avez peut-être déjà envisagé, c'est l'orgueil. Je suis compétent et je sais que je le suis. Qu'est-ce que je risque ? De devenir orgueilleux, comme le frère aîné. William Lang, qui a été archevêque de Canterbury, c'est qui. Quand même dans l'église anglicane, ce qui se fait de mieux, hein, c'est un peu le pape des anglicans. Il était archevêque dans la première moitié du XXe siècle, avait à son mur une peinture le représentant. Déjà, le fait de se faire peindre le portrait, c'est déjà pour moi un peu problématique. Hein. Et bizarrement, il n'aimait pas ce tableau. Il n'aimait pas le résultat. Et un jour, il a demandé à l'évêque de Durham, donc un de ses subalternes, ce qu'il pensait de la peinture, en précisant qu'il semblait que le peintre l'avait représenté comme étant arrogant, orgueilleux et mondain. L'évêque lui aurait alors demandé avec un petit sourire « Dans laquelle de ces attitudes, Monseigneur, ne se reconnaît-il pas ?» Pourquoi vous croyez que je ne me fais pas peindre ? Je vais être trop peur des résultats. Bon. Donc le danger de ce niveau aussi, si je peux dire ça comme ça, et c'est peut-être le pire de tous, c'est notre propre aveuglement. Là, on n'est pas inconscient, on est devenu aveugle. Vous savez, des gens consultent des thérapeutes et des pasteurs tous les jours pour des problèmes de colère, d'anxiété, d'addiction, etc. Il est excessivement rare que quelqu'un consulte pour un problème d'orgueil. Moi, je n'ai jamais vu personne qui est venu me voir en me disant « il faut que tu me files un coup de main parce que j'ai un problème d'orgueil ». Peut-être parce qu'il s'est dit que j'étais aussi orgueilleux que lui, je ne pourrais pas l'aider. Ça, c'est possible aussi, hein, mais bon. Il n'existe à ma connaissance aucune clinique Betty Ford, vous savez, la fameuse clinique américaine où tous les stars de cinéma et de la chanson américaine vont se faire soigner leurs différentes addictions. Pour l'orgueil, à ma connaissance, on n'a jamais fondé une clinique pour soigner l'orgueil des gens. Mais ce n'est pas parce que ces cliniques n'existent pas qu'on n'en a pas besoin, que ce n'est pas vraiment un problème. Il y a un autre exemple frappant par rapport à ça, toujours dans l'Évangile, où Jésus parle d'un pharisien, donc d'un compétent et fier de l'être, d'un pharisien qui est en prière, et qui remercie Dieu dans sa prière de ce qui n'est pas nul ou en dessous de tout, comme le pauvre type qui est en train de prier à côté de lui. De nombreux chrétiens, vraiment, hein, lisent cette histoire et se disent, ce pharisien, il pensait qu'il devait gagner les faveurs de Dieu, mais moi je suis plus malin que lui. Je sais que je ne dois pas faire ça. Parce que ma doctrine est juste, ce que je crois est juste. Dieu soit loué, je suis meilleur que ce type qui pensait qu'il était meilleur que tout le monde. Non mais c'est souvent, hein, je ne sais pas, enfin, voilà, j'exagère peut-être. Hein. Certains diront, ben oui, forcément, tu exagères. Tu serais plutôt si tu n'exagérais pas. Donc à ce stade-ci, ben, on va avoir besoin plus d'espérance, parce qu'on sait que c'est ça le problème, on n'a plus besoin d'espérance, ou quasi plus, puisque l'orgueil a remplacé ça. On va avoir besoin d'humilité pour contrer l'orgueil. Il faudra sans doute une crise dans le domaine où nous sommes le plus orgueilleux, donc le plus compétent. Réputation, famille, spiritualité, donc rapport à Dieu, pour que notre suffisance soit ponctionnée, pour qu'on prenne conscience, encore une fois, que nous sommes orgueilleux. Comme le disait un grand personnage de l'histoire de France, Philippe d'Orléans, qui a assumé la régence tant que Louis XV n'avait pas atteint l'âge de 12 ans. Donc Philippe d'Orléans, à qui un de ses parents reprochait de le condamner alors qu'ils étaient du même sang. Il a répondu, « Lorsque mon sang est mauvais, je me le fais tirer. » C'est joli, hein. On va passer à notre dernier stade. Compétent et naturel. Provenant-là qui jette des craies, donc elle est compétente et naturelle. Donc, je reprends mon image du skieur. Ben, c'est le skieur qui pense plus à ce qu'il fait, qui vole au-dessus des bosses, n'ayant plus besoin de penser à lui-même en train de skier. Il s'adore plus, il ne se regarde pas skier. Il skie naturellement. Il prend du plaisir. Il est totalement libre du frisson de la descente. N'est-ce pas, Geoffrey? C'est le père qui accueille son fils à la maison. À ce stade, la compétence ne ressemble plus à quelque chose d'héroïque. Oh, mais qu'est-ce que je suis spirituel? Juste quelque chose de sain, quoi. Ça devient naturel. Ça commence à s'implanter dans notre nature profonde. C'est l'alcoolique, pour reprendre cet exemple, qui est sobre depuis 20 ans. Pour lui, aujourd'hui, la sobriété ne rime plus avec le fait de penser en permanence à rester sobre, mais bien avec la liberté de penser à des choses plus intéressantes que ça. C'est derrière, c'est toujours là, hein, potentiellement le danger, mais voilà, il n'est plus focalisé en permanence là-dessus. Il existe dans le sud-est de la France un petit village portant le nom de La Chambon. Peu de gens connaissent cette histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de ce village ont risqué leur vie afin de protéger des Juifs. Que des personnes, des familles aient caché des Juifs, on le sait tous, mais qu'un village entier décide en communauté de planquer des Juifs, ça, c'est exceptionnel. Depuis la fin de la guerre, on a appris cette histoire, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ces villageois. Un écrivain américain, Philip Haley, leur a même consacré un livre. Il trouvait ça tellement important de dire que ces Français avaient été extraordinaires. Pourtant, ces villageois ont toujours eu tendance à s'irriter lorsqu'on chantait leurs louanges ou qu'on tentait de les faire passer pour des héros. Ils comprenaient pas ça. Parce qu'ils répondaient systématiquement toujours la même chose quand des journalistes allaient sur plan en disant « mais vous avez été extraordinaires ». Ça les énervait à la longue. Ils répondaient simplement « que pouvions-nous faire d'autre ?» Il fallait le faire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. On n'avait pas d'autre choix que celui-là. Je ne suis pas sûr, hein, mais enfin bon. C'est quand même beau qu'ils considéraient eux-mêmes qu'ils n'avaient rien fait d'extraordinaire. Et c'est ici le centre de l'histoire que raconte Jésus concernant ce fameux pharisien en prière. Lorsque nous grandissons vraiment spirituellement, obéir à Dieu cesse d'être quelque chose qui nécessite que nous jouions du clairon ou que nous organisions un banquet pour célébrer notre merveilleuse pertinence. On ne tient pas de conférence de presse pour ça. Tu sais, hier, j'ai contemplé Dieu dans son temple pendant 2 heures. Alors, ou était-ce 3, 4, je ne sais plus. Même si ça se passe comme ça, ça devient naturel, on n'a plus besoin d'en parler. On n'a pas besoin de s'en vanter. Ça ressemble simplement à ce qui devrait venir naturellement. C'est quelque chose qui doit être fait, tout simplement. C'est à ça qu'on doit arriver, c'est à ça qui doit être. Alors bien entendu, je vous rassure, nous ne progressons pas d'un niveau à l'autre de façon linéaire. Hein. Ce serait trop beau. Nous pouvons faire des allers-retours pendant un certain temps. Et puis ces niveaux peuvent également varier d'une habitude à l'autre. Vous pouvez être au 4e niveau au sujet de l'alcool et être au niveau 1 concernant l'inquiétude et l'anxiété, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de se juger l'un des uns les autres. Moi, je peux avoir super facile dans un domaine où j'ai très vite monté et clarifié les choses. Et puis un autre, il va être naturellement à un certain niveau dans un domaine. Et moi, je vais me battre dans ce domaine-là d'une manière incroyable, quasi tous les jours. Mais cette prise de conscience, là, de ces petits niveaux que je viens de décrire, vont de toute façon nous aider à nous souvenir de l'objectif de tout ça. L'objectif, c'est que la meilleure version de moi-même habite au 4e étage, donc tout au-dessus. Là, il y en a plus que 4, hein, mais je trouvais le bâtiment assez sympa. Donc là où le skieur avale les bosses, là où le père souhaite la bienvenue à son fils, même s'il ne le mérite pas, là où le serviteur fait toute la joie de son maître, pour revenir à la première parabole que nous avons vue. Je termine par une autre petite histoire. On raconte qu'un jeune homme très ambitieux, un moine, s'est un jour approché de son maître et lui a dit « Père, je veux être ton élève, mais pas simplement ton élève, je veux être ton meilleur élève. Combien de temps vais-je devoir étudier ?» Et le père a répondu « 10 ans. »« 10 ans, mais c'est beaucoup trop long. Père, qu'en penses-tu si j'étudie aussi fort que tous tes autres étudiants réunis ?» Et le père a répondu, « Alors ça va te prendre 20 ans. » 10 ans, 20 ans, avec l'aide de Dieu, par nos propres forces. Il y a un fleuve d'eau vive tout autour de nous, mais vous ne pouvez pas le pousser, et moi non plus. Nous devons donc apprendre à essayer plus doucement, à essayer différemment. Et je récapitule ce que j'ai dit. Donc, premier niveau, faites l'exercice pendant les vacances, vous avez un peu de temps, si vous avez un peu de temps. Incompétent et inconscient de l'être. Alors, le danger, je le rappelle, à ce niveau, est de continuer à vivre dans une ignorance perpétuelle. Et à ce stade, ce qui va s'avérer nécessaire pour en sortir, c'est la douleur ou la souffrance. Donc, ça relativise la souffrance aussi, ou ce que nous pouvons ressentir. C'est que ça n'est pas quelque chose de catastrophique systématiquement, c'est quelque chose qui nous informe sur l'état de la réalité. C'est important de comprendre ça. Incompétent et conscient de l'être. Le danger à ce niveau est de désespérer de mon incompétence et d'abandonner. Et à ce stade, ce dont nous avons besoin, c'est d'espérance. Et des autres qui peuvent être passés par là, qui en sont sortis déjà, qui ont dit « ne panique pas, c'est un moment qui n'est pas facile parce que tu as une mauvaise vision de toi-même, mais crois-moi que ça va, tu vas avancer, tu ne vas pas rester là ». C'est pour ceux qui connaissent un peu les exercices spirituels de Ignace de Loyola, donc le fondateur de la confrérie des jésuites, hein, où ce sont 30 jours de retraite spirituelle dans le silence que doivent prendre tous les jésuites. Et moi, j'ai pas mal étudié cet ouvrage qui était intéressant à plus d'un titre. Et comme il m'arrivait de faire des retraites personnelles dans un centre jésuite, où il y avait des jésuites qui faisaient ces exercices, je repérais systématiquement tous les prêtres qui étaient en fin de troisième semaine. Parce qu'en fin de troisième semaine, dans les exercices de Ignace de Loyola, vous vous rendez compte que vous n'êtes rien et que Dieu est tout. Donc, il passait comme ça. Mais vraiment, hein, je les repérais rien que ça. Comme ça. En résumé, je suis une merde cosmique. Voilà. Fin de quatrième semaine, ils ont compris que Dieu les aime. Attends. Bonjour, ça va ? Mais je riais beaucoup avec les fins de troisième semaine. Mais fin de troisième semaine, c'est ça. Je suis incompétent et je viens de le découvrir. Niveau suivant, compétent et conscient de l'être. Donc le danger, donc je suis vraiment bien, je suis compétent, mais je le sais. Donc là, le danger, forcément, c'est l'orgueil. Et à ce stade, nous avons forcément besoin d'apprendre l'humilité. Et enfin, dernier étage, le compétent, compétent et naturel. Donc c'est la meilleure version de moi qui habite le quatrième étage. Pourquoi ? Parce que le quatrième étage, c'est celui plus proche de Dieu. Progressivement, on commence à désapprendre des choses, on commence à se voir vraiment comme on est, et on se voit finalement comment Dieu nous voit. C'est ça qui est important. Même quand on se sent nul, quand on se passe devant Dieu, on n'est pas nul, puisqu'il nous aime. Et qu'on ne peut rien lui apprendre de nous, il sait. Donc on dit, je suis nul, oui, mais ne me parle pas, je sais bien, mais c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Puisque je t'aime, et grâce à mon amour pour toi et mon Saint-Esprit, tu vas pouvoir dépasser cette dimension. Et devenir, rappelez-vous, la meilleure version de toi-même. Donc, et je termine, la vie du disciple, et c'est important, ne consiste pas tant à grimper les échelons d'une échelle, parce que ça, il faut vraiment arrêter avec ça, que de prendre conscience de qui nous sommes et de ce que Dieu peut faire en nous et pour nous, et de ce qu'il nous aime. Amen. De son amour, moi c'est ce que je dis toujours, on peut douter en termes de